J'ai la chance de connaître Richard Peluzzi depuis très longtemps. Je pense que ça remonte dans les années 70, donc ça fait beaucoup plus que 30 ans. Et j'ai toujours beaucoup apprécié son travail, mais je ne connaissais pas complètement l'histoire de sa vie. Et même si dans ce livre, j'ai retrouvé beaucoup de choses que je savais, j'en ai trouvé aussi beaucoup que je ne savais pas. Et notamment tout ce qu'il écrit au début du livre, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont le lire, sur son enfance, un peu tourmentée.
Oui, oui.
Et peut-être que tu peux en redire deux, trois mots, parce
bien
que
sûr,
c'est
un
fondateur.
Sur l'enfance, oui. L'enfance. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le livre que j'ai eu une enfance pas banale, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai été... Mes parents se sont mariés à 20 ans, je pense, en gros, quoi, entre 18 et 20 ans, et se sont séparés à 21-22. Donc j'ai été élevé, comme on disait à l'époque, par mes grands-parents. Et comme il y avait deux grands-parents, maternels et paternels, j'étais élevé de temps en temps par les deux, et j'étais très capricieux parce qu'ils avaient deux styles, deux formes de vie tellement différentes que parfois j'avais envie d'aller rejoindre les uns, et puis quand je m'ennuyais chez les uns, j'allais chez les autres. Donc c'était très compliqué, parce que les grands-parents maternels, habitaient le Havre. Elle habitait le Havre, dans le Havre en ruine à l'époque, près du port, où c'était absolument un endroit qui n'était plus une rue, qui était un endroit troué par les bombardements. Les maisons dans lesquelles on habitait, des 5 ou 6, dans une rue misérable, ils tenaient un bar qui était ouvert la nuit. Et moi, j'avais 5 ans, j'allais pas à l'école, je restais, la nuit, j'allais me coucher avec eux vers 2h du matin. Enfin, c'était une vie vraiment catastrophique, mais que j'adorais, quoi, parce qu'il y avait les bateaux, il y avait la mer, je regardais tout ça, j'allais me promener sur les quais, sur les docks avec mon grand-père. Et j'ai gardé cette période un goût pour l'architecture, l'archéologie industrielle du 19e, très très fort. On le voit après, presque pendant toute ma vie, dans les spectacles, dans mes décors et tout ça. Et puis l'autre pan de ma famille, c'était tout le contraire. C'était des gens qui arrivaient d'Italie. Mon grand-père avait une entreprise de chauffage central. Il avait éduqué mon père et ma tante de façon très, très différente. Ils avaient fait des écoles d'art. L'autre avait fait une école de sciences politiques. Et avec mon père, quand je le voyais, je parlais d'architecture, de renaissance italienne, de peinture et tout ça. Donc ça faisait un étrange mélange, ces deux camps, si j'ose dire. C'était quasiment deux camps. Et vers l'âge de 13-14 ans, mes parents s'étaient remariés, j'étais toujours très solitaire, et j'avais envie de peindre, de dessiner, mais je ne savais pas bien comment faire. Donc je ne savais pas comment exprimer toutes les choses que j'avais vues pendant mon enfance, et qui finalement étaient des richesses, mais je ne le savais pas. C'est dangereux d'ailleurs, je conseille à personne de suivre ce chemin-là, parce que ça m'a forcé à apprendre seul, donc autodidacte, et à me diriger par hasard vers le théâtre, parce que je n'aimais pas tellement le théâtre, je voulais faire de la peinture, mais j'avais besoin de gagner ma vie. Donc j'ai eu aussi la chance extraordinaire, et le hasard a fait que un matin, j'ai rencontré Patrice Chéreau. Je simplifie un peu, parce que ceux qui le liront verront tous les détails.
Tu peux te dire quand même deux mots sur Charles Auffray,
parce que c'est
un nom que je ne connaissais pas vraiment,
ouais.
Sauf dans des livres, des choses comme ça, mais... Tu as l'air de considérer que c'est quelqu'un d'extrêmement important dans ta formation.
Ah oui, il a beaucoup compté parce qu'il m'a... Au moment où je ne savais pas, j'avais tous les trucs pour dire les choses, pour les écrire, pour les dessiner, mais je n'arrivais pas à le faire. C'était maladroit parce que je n'avais pas eu d'école, quoi. Donc, à un moment, ma tante m'a dit, écoute, je connais quelqu'un qui est un sculpteur, qui est un très bon professeur de dessin et tout ça. Il faudrait que tu le rencontres. Et un matin, je l'ai rencontré, je suis allé à l'académie, c'était l'académie Malebranche, dans le 5e arrondissement, et j'ai vu à quel point ce type était un grand, grand pédagogue, quoi. Il allait vers chacun, il reprenait le fusain, il parlait des points de lumière, il parlait de la vie en même temps que du dessin, et ça correspondait à une éthique, comme ça, à quelque chose qui me parlait très, très fort. Et pendant 2 ans, je suis resté, j'ai travaillé avec lui, j'étais un peu paresseux, comme ça, mais il me disait, bon... Avec tout ce que vous avez dans les mains, vous devriez vous forcer à travailler un peu plus. J'ai dit, ouais, d'accord et tout. Et puis, je me disais en moi-même, c'est merveilleux parce qu'il m'a donné des bases. Il m'a appris comme ça l'équilibre des formes, ce que veut dire une lumière, ce que veut dire une base, ce que veut dire un creux, le clair-obscur, tout ça. Mais je n'ai pas envie de passer ma vie à faire comme lui parce qu'il se levait à 5h du matin pour attraper la lumière du jour, Il se couchait, il sortait pas le soir, il se relevait le lendemain matin à la même heure, il se mettait en forme en faisant quelques croquis et tout ça. C'était un moine, quoi. Alors je me suis dit, moi, je suis pas un moine, je vais pas y arriver à faire comme ça, mais j'ai besoin de gagner ma vie. Et alors, c'est comme ça que ma tante a dit, bah, toujours elle, je connais quelqu'un qui est un critique de théâtre, qui m'a parlé d'un jeune homme à Sartrouville qui commence déjà à être, paraît-il, extraordinaire. Et il faudrait que il paraît qu'ils sont en train de peindre un décor, tu pourrais aller les aider, te renseigner. Voilà. J'avais pratiquement, alors là on rentre dans le truc, j'avais pratiquement pas dormi de la nuit, j'arrivais de Saint-Germain-des-Prés, et le matin, à la gare Saint-Lazare, je me dirige vers Sartrouville. J'étais déjà déprimé, rien qu'à l'idée de me retrouver dans la banlieue à Sartrouville, comme ça, qui ne connaît pas Sartrouville, à l'époque, ne comprend pas ce que c'est qu'une banlieue vraiment triste. Et j'arrive sur une place de marché, comme ça, et là on me dit c'est la maison de la culture. Bon. Et puis, je vois personne, sauf une dame qui était en train de nettoyer le plancher, le sol, un sol sale, crado, innettoyable, mais elle le nettoyait quand même avec la lumière des néons. Oh là là, je me dis, où je suis tombé? Et alors, elle me dit, qu'est-ce que vous cherchez? Je lui dis, je cherche la répétition. Elle me dit, non, il y a le metteur en scène qui est là, sur le plateau, il doit dormir là, il est un peu fou, il a pas, voilà, il peut pas se passer de ce tel, il est là tout le temps. Alors, je dis, bon. Et j'arrive sur le plateau, il était 9h du matin, et je vois effectivement un type qui déboule vers moi comme ça et qui commence à me raconter, il faisait ses décors à ce moment-là, c'était Chéreau, donc il commence à me raconter toute l'histoire de la machinerie, des bleus, des couleurs, tout ce que je voyais. Et je me dis, vraiment, même pas une heure, je me dis, c'est le métier que je veux faire. Je veux faire ça, quoi. Je veux faire des décors de théâtre et avec ce type-là, je veux travailler avec lui parce qu'il a tout ce que j'ai envie de faire. Contrairement à Auffray qui lui se réfugie dans son truc, lui il dort dans le théâtre la nuit, il joue et machin, tout ça. C'est un être vivant avec qui, créateur, un artiste, voilà. Et Patrice, hélas, est mort il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, et on a travaillé depuis ce jour-là jusqu'à l'année dernière, ensemble.
C'est combien d'années ça fait?
Oh là là, 47 ans.
47 ans, ouais.
47 ans, on avait 20 ans, enfin voilà, à peu près, c'est un truc. Et dans ce livre, enfin, j'explique aussi toutes les autres choses que j'ai faites dans ma vie, dont, par exemple, il y a deux architectes avec qui je travaille, là, Guy Tropré et Bernard Mazière. Bernard Mazière, avec qui on a fait un long parcours à Mouton-Rothschild et à Château-Clermidon, où on a refait tout ensemble. Et bon, c'était un grand bonheur, un grand plaisir de faire ce travail, ce que je faisais pour la première fois de l'architecture, comme ça. Sinon, j'ai fait beaucoup d'expositions, beaucoup de meubles, de mobilier, puis je continue à dessiner, à peindre beaucoup. Alors ensuite, après ce travail, j'ai rencontré Guy Tropré à Château Margaux, où on refait ensemble la salle d'accueil et le musée, petit musée. Et c'est passionnant parce que c'est deux immenses vins, quoi. Vous avez la chance dans cette région d'avoir des trésors comme ça. Deux immenses vins, deux coutumes, deux pays totalement différents à 15 km l'un de l'autre. C'est extraordinaire, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être toujours au bord dans des marais comme ça, d'eau, de vignes. Je ne sais plus où on est, entre terre et ciel. Et là, aujourd'hui, j'étais à Margaux, hier à Mouton. On a à chaque fois des chocs, quoi. Voilà.
Les bonnes choses.
Et je me dis toujours, mais c'est tellement bizarre d'avoir commencé une vie comme ça, d'avoir été sans école. Et puis, un jour, je me retrouve avoir été jeté du concours quand même des arts déco quand j'étais étudiant, parce que je n'avais pas assez travaillé. Enfin, étudiant avec Auffray, je n'avais pas assez travaillé. Et puis un jour, on me demande d'être directeur de l'école. Donc je suis directeur de l'école. Après, on me demande d'être directeur de la Villa Médicis. Je suis directeur de la Villa Médicis. Après, je me retrouve à Mouton grâce à Philippine de Rothschild et tout ça. Je me dis, c'est quand même des drôles de hasards, une drôle de chance que j'ai eue dans ma vie. Voilà.
Et pour revenir à Chéreau, donc un peu à l'opéra, puisque ça m'intéresse le plus.
Ben, bien sûr.
Quelle a été la première expérience? C'était l'italienne Alger.
Aspolette, oui. L'italienne en Italie. L'italienne.
Et comment a-t-il abordé l'opéra pour la première fois? Parce que ça, c'est un des seuls spectacles d'opéra de lui que je n'ai pas vu.
Tu ne l'as pas vu?
Non.
Bah, écoute, il l'a abordé en très attentif, mais je veux dire un peu comme il a pu, tu vois, parce qu'on parlait l'italien à ce moment-là. Moi, je parlais très mal, et lui, pareil.
Tu es d'origine italienne.
Oui, mais j'ai appris en travaillant à Milan après, au Piccolo Teatro. Tu vois. Hein. J'ai appris vraiment à parler l'italien en Italie, plus tard. Et donc, tu vois, c'est très très loin. Alors, comment il a abordé? Je sais qu'on travaillait beaucoup, qu'on rigolait beaucoup. À l'époque, on était très jeunes, quoi. Et que, on était fascinés par l'orchestre, par les répétitions, par la façon de travailler des chanteurs, qui est quand même très différente des acteurs, par les figurants de Spolette, qui étaient des gens du village, tu vois. Il y avait tout ça, quoi. Et puis, on était entouré de beauté. Spolette, c'est en Ombrie, c'est une petite ville merveilleuse.
Ah, c'est magnifique.
Là aussi, on a eu une chance extraordinaire. C'est pas du tout le Chéreau qui a commencé à travailler sur l'Italienne à Alger. En fait, c'est comme Mozart dans les premiers opéras de Mozart. Dans les premiers opéras de Mozart, il y a déjà tout. Il y a tout, mais on sent.
Pas développé encore.
Et ça se développe, voilà. Tu vois. Et Patrice a fait ça. Il a toujours travaillé avec le cœur, avec sa sensibilité, avec des maladresses, bien sûr. Mais les maladresses étaient magnifiques, tu vois. Et jusqu'à la fin, alors à la fin, c'était un virtuose, quoi. Ceux qui ont vu Electra, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Oui,
il était hors de l'opéra et hors du théâtre. Il avait porté ça ailleurs, quoi.
Ouais. Mais donc le premier opéra que moi j'ai vu, c'est celui qu'il a fait à l'opéra, les Contes d'Hoffmann.
Ouais.
Et moi, ce qui m'a frappé, c'est cette volonté d'aller jusqu'au bout et de ne pas contourner les problèmes et les difficultés. Beaucoup de metteurs en scène s'arrangent en disant bon, cette histoire elle est absurde, alors on va essayer de faire autrement, raconter une autre histoire. Il y a des effets spéciaux, on ne va pas les faire. Enfin, lui, il a tout essayé. La poupée, il a fait une poupée. Le reflet qui disparaît, fait le reflet qui disparaît. Enfin, des choses qui, effectivement, étaient compliquées à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ça ne serait du tout avec une vidéo de faire le...
On est allé chez un grand spécialiste des automates et tout ça pour faire le truc, le dessiner à l'échelle humaine et tout. Très compliqué. C'est un décor de moi que je n'aime pas.
C'est vrai ?
Non, je n'ai jamais aimé ce décor. J'ai toujours trouvé qu'il était lourd et tout. Et quand on me disait « il est très beau », je dis « non ». Voilà. Il y en a quelques-uns.
Ouais, je trouve très beau. Ouais. Mais il y avait des accessoires qui étaient magnifiques, le carrosse noir.
Ça, il y avait des trucs magnifiques dans les accessoires. Hein, oui, bien sûr, des objets de science optique et tout ça.
Super,
bien sûr.
Et après ça, il y a eu le fameux ring. Donc ça, tu en parles abondamment dans le livre, parce que je pense que c'est une expérience qui a dû compter dans votre vie à tous
les deux. Le vrai sujet du ring, bon, c'était extraordinaire à l'époque, tu vois.
Ouais.
Mais on en parlait avec Patrice avant qu'il parte, là, il y a peu de temps. Et on se disait, mais quel sens ça aurait de le faire maintenant comme ça, tu vois.
Il y a des gens qui ont dû demander de le refaire, non?
Oui, on m'a demandé, j'ai dit non, lors du Rhin et tout ça, on m'a demandé de faire
une autre production.
D'autres décors comme ça, j'ai dit non, ça je ne peux pas. Mais quel sens ça aurait de le faire avec cette esthétique-là maintenant, tu vois, le bas de New York, l'archéologie industrielle, tout ça, ça n'a plus la même importance maintenant, ce n'est pas le même choc.
Oui, c'est plus pareil.
Tu vas à New York, tu es dans le bas de New York, tu es dans les grands magasins qu'on voit dans le monde entier. Quoi. Mmh. Quand on était là, c'était vraiment la fin d'un monde, c'était le crépuscule. C'était le crépuscule d'une archéologie du 19e. Quoi.
Ouais, mais ça, cela dit, quand tu regardes la vidéo encore aujourd'hui, il reste quelque chose de fort quand même. Ouais. Parce qu'il y a la direction d'acteurs, il y a la...
Oh, bah c'est magnifique, ça.
Les chanteurs, qui étaient quand même formidables.
Je parle surtout de l'esthétique
du décor.
Des décors, tu vois. Par exemple, je pensais à Siegfried.
Toi, tu dis que tu as raté Siegfried.
Ah ouais. J'ai toujours pensé que j'avais raté Siegfried, que cette forêt, ce n'était pas une forêt, que c'était un machin de décor de théâtre comme ça qui donnait pas peur, quoi, qui donnait pas. Et je pense que ce serait maintenant, j'imagine que je ferais plus, j'irais jusqu'au bout de l'histoire de l'archéologie industrielle et je ferais certainement, comme Brecht le dit, dans la jungle des villes. Tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire, je ne ferais pas une forêt, mais je ferais certainement des maisons, des architectures qui t'écrasent,
qui t'écrasent,
des trucs comme ça. Ce que j'avais fait dans la dispute au théâtre, mais voilà.
Mais ça, c'était aussi ce ring, c'était quand même à l'époque quelque chose que vous avez fait, obligé de faire très rapidement.
Oh là là.
C'est quand même 17 heures de spectacle et c'est monté en quelques mois.
C'est-à-dire qu'on est arrivé là-bas vraiment comme des gamins, tu vois. On nous propose de faire ça, on était contents, on rigolait, on faisait des coups de pied sous la table. Et puis, 3 mois après, on rigolait plus du tout parce qu'on voyait que... Moi, j'arrivais pas à dessiner les décors. J'étais tellement angoissé par la charge de
boulot. Puis, des décors qui marchent les uns avec les autres.
Tout ça qui s'emboîte, qui s'imbrique, qui change. On ne doit pas entendre de bruit, on ne doit pas entendre de trucs. Ça doit se faire en 2 secondes. Ça doit aller avec les tempi, avec les machins. J'étais pétrifié. Puis à un moment donné, je me suis dit, tant pis. Voilà.
Et les rapports avec Boulez, comment ça a été?
Formidable. Ouais. Depuis le début. Mais lui aussi, il avait des difficultés.
Avec l'orchestre.
Oh là là, la première année, c'était terrible. On était tous... attendus au tournant, on était tous sués, on était tous, tu vois, traités de communistes et tout ça. Bon. Et voilà, on ne savait plus comment on s'appelait, en gros. C'était un truc absolument effrayant. Puis, la deuxième année, on a eu la chance
de pouvoir refaire des choses,
qu'on trouvait pas bien, ratées. Moi, je me dis toujours maintenant que s'ils ont sifflé comme ça, c'est qu'ils avaient raison, parce qu'on n'était pas allé assez loin dans ce qu'on voulait faire. Quoi. Et à un moment, il y avait des choses maladroites comme tout, j'en vois ça... J'ai encore des images de la première année. Je me dis, oulala, ils auraient dû me condamner à mort. Voilà. Et puis après, ça a été un succès mondial. Et il y a encore des gens l'été dernier qui m'ont dit, on a regardé le ring tout l'été à la télévision. C'était extraordinaire. Enfin, sur le...
Ah, voilà. Ça devait dire.
Voilà. Moi, je ne l'ai jamais revu.
Tu n'as jamais voulu le revoir ?
Non, ça va.
Et qu'est-ce qu'il y a encore à l'Opéra de Paris ? Il y a eu Loulou.
Ah, mais ça, c'est, ça, c'est parmi mes deux opéras.
Une chose magnifique.
Bah, si tu vois, entre Loulou et Votre Sec, c'est, je ne sais pas quel opéra de ces deux-là je préfère, mais c'est bon. Berg, pour moi, c'est quand même là-dessus que je me suis le plus amusé à travailler, quoi. Mmh. Et Votre Sec, je ne sais pas. Entre Loulou et Votre Sec, je ne sais pas ce que je trouve mieux.
Loulou, il y a quelques longueurs, quand même. Surtout dans la fin qui a été refaite, ouais. C'est un peu... Loulou, c'est parfait. Votre Sec, c'est parfait du point de vue de la longueur. C'est vraiment parfait. Quelque chose qu'on peut même passer sans entracte.
On a l'impression, et j'ai eu beaucoup de mal à faire ce décor, à comprendre.
Oui, j'ai vu
que tu avais été
retrouver des choses en Angleterre.
Retrouver un livre de perspective du fait par des moines au XVIIIe siècle. Et puis après, j'ai pensé à Paul Klee. Et puis en même temps, j'ai pensé à Giotto. Je voyais une ressemblance possible, enfin une désaffinité entre Giotto, Paul Klee, les textes d'Alban Berg sur les blocs et tout ça, et m'est venue les idées de cubes et de blocs qui bougeaient dans l'espace.
Qui sont la couverture du reste.
C'est le dessin, oui.
Et le cinéma, est-ce que tu as aimé travailler pour le cinéma ?
Moi, j'aime aller au cinéma, mais moins travailler au cinéma. Je veux dire, parce que... Pourquoi ? Parce que ce que j'aurais aimé, c'est ce qu'on faisait à Hollywood ou partout, c'est des décors en studio, tu vois. Ouais. C'est construire des décors. Ça, genre, je l'ai fait avec Patrice, hein. J'ai fait toutes les constructions de la Reine Margot, un peu de la chair de l'orchidée, on avait fait beaucoup, j'ai reconstruit des choses. Mais sinon, il faut faire des repérages.
Vous avez beaucoup tourné à Bordeaux, non ?
Beaucoup à Bordeaux, ouais. Beaucoup à Bordeaux, qui était une autre ville à l'époque.
Ouais.
Qui était grise, noire, plus triste et tout ça, mais qui était belle, hein, toujours une ville magnifique. Je trouve que c'est une ville incroyablement bien dessinée, bien faite, bien pensée, quoi. C'est une ville extraordinaire. Et je trouve que ce qui a été fait là,
ouais, depuis quelques
années, c'est soufflant, hein. Parce que la ville est vivante, il y a plein de choses qui se passent. On a tous envie d'habiter à Bordeaux quand on voit à Paris le stress et le truc.
Et la pollution, tu as vu.
Et la pollution et tout ça, quoi.
Ouais. Et Luc Bondy, donc tu as.
Luc
c'est
Bondy,
la deuxième.
Ah non, non, on a fait. Attends.
Autant qu'avec Chéreau, presque, non ?
On travaille. Oui, c'est l'autre personne
avec qui tu as travaillé
avec
vraiment.
Avec qui je m'entends vraiment au théâtre, à l'opéra. Ils sont radicalement différents. Ouais. Ils étaient toujours un peu jaloux l'un de l'autre.
Ça, j'imagine.
Toujours. Mais ils sont tellement différents, tellement. Chéreau est quelqu'un qui voyait les choses en bloc. Et après, il arrivait au détail. Il n'oubliait rien. Bondy fait le contraire. Il part des détails, comme un pointilliste, toi, comme Seurat, par exemple. Il part des détails pour arriver au bloc, à la masse. Et ils ont une façon d'aborder l'œuvre. Parfois, il y a beaucoup d'affinités, mais en même temps, totalement différentes. Là, en ce moment, on est en train de travailler avec Luc sur une pièce que je trouve admirable. C'est le... Ivanov de Tchekhov. On doit présenter ça à l'Odéon en janvier.
Ah, c'est bientôt.
Ouais, c'est bientôt. Et puis, voilà, on a travaillé énormément là-dessus. On est allé en Russie. On a vu des acteurs russes jouer parce qu'on va le rejouer à Moscou. On va le retravailler là-bas et tout ça. Et puis, je fais un autre spectacle que je mets là-dessus qui s'appelle Les contes de la lune vague après la pluie de Mizoguchi, le cinéaste qui a fait ça. Et ça a été traduit, il y a un nouveau livret, et ça a été composé par un jeune compositeur qui s'appelle Xavier Dyer, une musique très belle. Et je fais ça avec quelqu'un qui n'a pratiquement jamais fait d'opéra, mais que j'aime beaucoup, qui a été l'assistant de Patrice et qui l'a accompagné comme ça jusqu'à la fin dans ce truc horrible qui s'est passé, avec qui je me suis très bien entendu, et je trouvais formidable de faire ça avec quelqu'un de tout jeune, nouveau et tout ça, voilà.
Et ça, c'est au mois de janvier
C'est au mois de janvier à Rouen, à l'Opéra de Rouen, qui est un très bel endroit.
C'est un bel endroit.
Ouais. Ah ouais, c'est très beau. Et à l'Opéra Comique à Paris.
D'accord. Bon, et ensuite, il y a eu cet échange, toute cette évolution aussi vers la construction de meubles, de design,
la
scénographie d'exposition.
Ouais, tout ça est venu avec le théâtre, en fait. Tout ça
même la restauration du théâtre du Capitole à Toulouse.
Ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
Ça, c'était.
Mais ça, c'est pas le mieux. Je suis pas très fier parce que c'est quand même quelque chose qui nous était tellement imposé, la façon.
La structure était.
C'était pas là, très belle, c'était compliqué. L'endroit était pas très beau. Il fallait faire un peu du pastiche. J'ai horreur de ça, c'était un peu kitsch, quoi. C'est un truc, mais à culpa, mais on ne pouvait pas faire autrement. On était pris dans un système féroce de la, du théâtre, de la ville, du goût, de tout.
Enfin, le maire n'a pas voulu casser
il était bien, ouais, c'était compliqué.
Le théâtre, il est mal structuré. Bah voilà,
c'était ça. Sa structure, et pourtant le théâtre, il était très très laid. Quand on est arrivé, c'était des velours marron, sale, qui recouvraient les murs, et tout ça. Voilà. Et alors les meubles, et surtout, ça a commencé, ma grande échappée du théâtre, ça a été avec le musée d'Orsay. Un jour, Henri Loirette, qui venait voir qui a vu pratiquement tous les spectacles, comme ça, il m'a appelé, il m'a dit on voudrait que vous travailliez sur les espaces de l'Opéra Garnier, parce qu'on n'a pas de documents là-dessus. Tous les dessins et tous les dessins magnifiques de Garnier, on ne peut pas les exposer parce qu'ils sont trop fragiles à la lumière et tout ça. Donc il faut inventer quelque chose pour qu'on comprenne ce qu'est le quartier de l'opéra et ce qu'est cet opéra au milieu d'un quartier comme ça, avec les trouées d'Hoffmann, avec l'opéra et ce qu'il représente, ce que ça veut dire. Et j'ai failli dire non, hein, comme toujours, parce que je me dis qu'est-ce que c'est ce chantier, c'est tout bas de plafond, il n'y a pas de place, il n'y a rien, comment on va faire pour s'en sortir de ce truc-là. C'est toujours mon souci d'évasion quand même, dans mes décors, dans tout ce que je fais, il y a toujours un truc, comment faire pour arriver à traverser le mur. Et là, je me suis dit, au fond, c'est bas, mais profitons de cette contrainte. Et j'ai pensé qu'on pouvait creuser le sol et faire une immense maquette du quartier de l'Opéra.
Sous du verre, sur
lequel on marche, comme ça, et qu'on voit, qu'on lise le plan par une maquette de l'Opéra de Paris. Et qu'en face, comme les gens, en fait, ne connaissent pas l'Opéra, ceux qui vont à l'Opéra, ils vont dans la salle, mais personne ne connaît comme nous les coulisses, l'eau, l'administration, les loges, les machins, tout ça. On a fait... réalisé en Italie, ça a duré 3 ans, une immense maquette, une coupe longitudinale, où on voyait tout, où on expliquait ce qu'était ce bâtiment. Quoi. Incroyable d'ailleurs, quand on le connaît bien, on voit à quel point il était révolutionnaire au fond, Garnier dans les formes, dans tout ça. Quoi.
Il était quand même beaucoup inspiré par Victor Louis.
Bah oui,
le grand théâtre.
Mais il était inspiré par les classiques.
Mais voilà, enfin, en même temps, il a développé quelque chose de complètement moderne à l'époque. Ouais. Et parle-nous un peu des artisans italiens, parce que c'est vrai que déjà, quand vous étiez à Spoleto, vous êtes allé fréquenter toutes ces grandes entreprises qui fabriquent des décors d'une manière magnifique.
Il y avait à l'époque une tradition d'artisans incroyables qui venaient tous plutôt du bâtiment, qui étaient des gens qui restauraient les palais, il y avait ce qu'on appelle des stuccatori, c'est-à-dire des plâtriers, des sculpteurs, qui étaient d'une habileté, qui étaient virtuoses, mais il y avait aussi des peintres de théâtre, qui étaient tous ceux de la Scala, tout ça, qui étaient aussi des génies. Ils ont inventé, à mon avis, l'impressionnisme avant les impressionnistes, parce qu'ils peignaient par touche, par exemple, un arbre avec des feuilles, tu étais près du truc, tu ne voyais pas les feuilles, tu voyais des trucs, plus tu te reculais,
plus, ça donnait,
oui, plus l'arbre était parfait. Quoi. Donc c'était, ça me fascinait. Moi.
Et c'est un métier qu'on a du mal à
retrouver. Hein, il est perdu. On ne peut pas se plaindre parce qu'il va se passer d'autres choses. On est en train de... C'est un monde dans lequel on est en train de
virtualité,
tout changer.
C'est la virtualité maintenant,
ouais,
y compris pour les décors.
Y compris pour les décors. Moi, je me bats pour continuer à faire mes décors. Jusqu'à maintenant, ça marche. Ils sont contents, les gens.
Ouais.
Bah, c'est ça, mais il faut lutter contre ce truc-là en disant on peut faire mieux.
Ouais.
Tu vois ? On peut faire mieux, on peut être plus radical, on peut être plus peintre, on peut être plus artiste en faisant, je crois, en continuant à travailler avec un crayon, un pinceau, des idées, de la sensibilité et tout ça. Quoi.
Ça va être de plus en plus difficile.
Je vois des trucs terribles à l'opéra pour moi qui ne me meuvent pas du tout. Enfin, les vidéos, tout ça, je me dis, mais enfin, ça ne me touche pas. Quoi.
Mais c'est difficile, hein. Nous, on voit quand on a des
les très jeunes générations commencent.
Les gens qui sortent des écoles des arts décoratifs ici ou
ailleurs. Ils ont
du mal
à se mettre à ce...
Ça les intéresse absolument pas.
Ouais, sauf que ça, les tout jeunes, comme ça, j'ai senti chez plusieurs le besoin de comprendre comment on faisait, quelles sont les racines de toutes ces choses-là. Tu vois ?
Ce qui me passionne maintenant, c'est le design, la vidéo et tous ces trucs-là.
Pas tous. Il y en a qui sont passionnés par le design de la vidéo, mais aussi par le dessin, par tout ça. Et ben, je pense qu'on va passer par des périodes tu vois, très, très compliquées, très confuses. On ne sait pas bien ce qui se passe, ce qui va arriver. On est à l'aube d'un nouveau moment, il me semble, toujours. Quoi. Je pense qu'il y a, c'est en politique, partout. Il y a une vie qui est en train de glisser sous nos pas pour qu'une autre arrive. Et heureusement.
Laquelle
ouais. Moi, ouais, mais je suis plutôt, moi je me dis...
C'est optimiste.
Pas optimiste, parce que toutes les tragédies qu'on voit arriver... Les mecs là qui ont 20 ans, Et tu sens que s'ils partent là-bas, je ne sais pas quoi, pour se mélanger aux coupeurs de tête, c'est qu'ils sont acculés contre rien, quoi. Ils sont face à un désastre. Donc, tout ça, évidemment, n'est pas fait pour durer, tu vois. C'est pas possible, quoi, tu vois. On est affligé par la solitude des gens, par parfois l'absence de possibilités qui se dressent devant eux comme un mur, là, cette fois-ci.
Et l'enseignement de l'art en France, par exemple, toi, qui a dirigé longtemps, l'école 10 ans, l'école créative, et puis moi, l'académie de Rome, qui est un peu différente.
C'est différent, mais c'est aussi une école
qui doit exister quand même.
Ça devrait être de plus en plus, d'ailleurs, un lieu de recherche et de création.
Qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'on y fait vraiment les...
Les pensionnaires?
Non, moi, je dis surtout l'école des arts décoratifs.
L'école des arts décoratifs.
Est-ce qu'il y a vraiment une volonté?
Tu vois, je viens de voir, il y avait ici tout à l'heure une ancienne élève de l'école des arts déco qui a gardé les meilleurs souvenirs, qui a appris plein de choses, ça dépend vraiment des enseignants, tu vois. C'est les enseignants qui doivent croire à leur métier, qui doivent avoir quand même le talent de transmettre quelque chose, d'expliquer comment on fait les choses. Moi, je suis arrivé au directeur de cette école à l'époque la pire. C'était quand même... il y avait encore 68 dans la perspective. Et là, les gens parlaient de tout, sauf ils faisaient rien. C'est-à-dire, en fait, ils parlaient du dessin, des explications qui n'en finissaient plus sur le sens, le contresens, le machin du dessin et tout ça. Philosophes, sciences humaines, tout. Et à un moment donné, j'ai demandé à voir les dessins. Au début, j'étais là, il n'y avait pas de dessin. Il me dit, mais attends, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on essaie de comprendre. Ouais. Le dessin même du dessin, enfin, un truc, bon. Et puis, à la fin, j'en ai eu marre et j'ai fait appel à Charles Offray.
Ouais.
Ce qui est cocasse quand même. Hein. Et il lui dit, écoutez, je sais que vous enseignez encore. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui leur apprenne à dessiner. Tu vois? Ouais, mais je n'ai pas pu. J'ai besoin de travailler pour moi. J'ai dit, faites-moi plaisir, vraiment. Il est venu et en 2 mois, son atelier était absolument bourré d'étudiants qui apprenaient
à dessiner.
Et Patrice Chéreau est venu à un de ses cours, ou 2, 3 cours, pour voir comment... On transmettait quelque chose quand il a fait Ceux qui m'aiment prendront le train,
ouais.
Où il y avait l'atelier d'un peintre qui parlait de l'art, qui parlait de peinture, tout ça. Il est venu écouter, entendre Offray leur passer le message qu'il m'avait passé à moi, d'ailleurs.
Et l'Académie donc, de Rome, c'est quoi maintenant exactement?
Alors l'Académie de Rome maintenant, d'abord c'est un endroit tellement beau, et Rome est une ville tellement complexe que l'Académie de Rome, si tu n'es pas là pour y travailler... sérieusement, et si tu ne communiques pas avec les autres artistes qui sont dans le même endroit que toi, ça devient très compliqué, quoi. Tu peux repartir très mal de la Villa Médicis si tu n'as pas vraiment travaillé. Je pense en plus qu'il y a une erreur depuis, je ne dirais pas depuis quand, mais depuis quelques années, sur la compréhension, le sens même du lieu. Tu vois. Parce qu'on veut tellement pouvoir tout faire là-dedans, qu'à un moment donné, ça marche plus. Par exemple, pour avoir un budget, ils font des locations de chambres, 450 euros. Ils font des mariages, des trucs à la con, quoi. Il y a un riche d'Arabie Saoudite qui a exigé, il aura passé 150 000 euros, mais que pendant 3-4 jours, il y a une immense tour en pâtisserie au milieu de la cour. Alors bon, les étudiants qui sont là pour travailler, c'est pas ces 150 000 euros qui vont changer l'histoire de la Villa Médicis. À mon avis, maintenant, il faudrait la refermer et se consacrer vraiment à la création artistique qui ait des résultats à la fin des séjours des gens qu'on leur demande. Je ne veux pas revenir au prix de Rome, mais enfin quelque chose, que l'Académie soit un lieu incontournable dans le monde entier, puisqu'on parle tout le temps du monde entier, sur le plan de la création, sur le plan de l'histoire de l'art, sur le plan des artistes qui peignent, même de ceux qui font des vidéos et tout ça, mais des artistes, quoi, tu vois.
Et quelles sont toutes les catégories sont toujours représentées comme autrefois, ou c'est essentiellement les...
Non,
il y a... C'est toujours des musiciens.
Non, il y a toujours des compositeurs, il y a toujours des écrivains, il y a toujours des cinéastes, il y a toujours des sculpteurs, on appelle plus ça sculpteur, mais enfin, il y a toujours de l'art plastique, il y a toujours tout ça. J'ai rencontré des gens extraordinaires dans les pensionnaires.
Ouais. Des peintres, ils sont choisis comment, c'était...
Alors, il y a un comité, un dossier, et puis il y a le travail qu'ils ont fait... Le projet qu'ils ont pour l'année ou les 2 années qui vont passer à Rome, enfin, il y a tout ça. Mais on a eu des grands types, quoi. Je sais pas, il y a eu Mantovani, Xavier Dyer, celui qui a fait la musique, là, plein de gens. Mathias Sénard, qui est écrivain, enfin bon, il y a eu beaucoup de gens.
Et tu penses que la situation dans un lieu comme Rome est toujours pertinente aujourd'hui, alors qu'on pourrait penser peut-être quelque chose en Asie ou...
aux États-Unis. C'est pertinent à partir du moment où on fait ce que je crois qu'on doit faire, c'est-à-dire, si tu veux, si on referme un peu la porte et si on l'ouvre pour montrer le travail des gens qui sont à l'intérieur. Si on ouvre cette porte-là pour faire des fêtes, des mariages, et qu'en même temps, il y ait des étudiants qui travaillent, et que le bruit les empêche de travailler la nuit, et que tout ça, qu'il y ait une confusion dans tout ça, bah, on se dit à quoi ça sert, quoi. Mais en même temps, il y a toujours des gens qui font leur truc, qui s'isolent et qui réussissent à faire. C'est un lieu tellement extraordinaire qu'on ne voit pas comment on pourrait en même temps s'en passer. Ce que je pense qu'il faut faire, c'est revoir le... On a revu le contrat de la villa avec Malraux, De Gaulle, ils ont mis Balthus. Maintenant, ça fait 40 ans, quoi, ou 50 ans. Je pense qu'on pourrait revoir tout maintenant. Mettre à plat l'histoire de la villa, ce que ça doit être vraiment.
Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Balthus? Ils ont arrêté le prix de Rome, c'est ça?
Ils ont commencé à arrêter le prix de Rome. Ils ont mis deux missions. Ils ont mis la mission Malraux et la mission Colbert. Donc la mission Colbert, c'est le travail, c'est les étudiants, c'est les pensionnaires. Et Malraux, c'est l'ouverture sur l'extérieur avec des expositions. Mais comme il n'y a pas de budget pour faire des expositions, tout est bon pour faire un peu d'argent.
Ramasser de l'argent, oui.
Tu vois? Et c'est ça qui n'est pas bon. Voilà.